Coup sûr dans le mid, présenté par Bene et compagnie. La collection complètement cornichon est arrivée. Découvrez Burger, le poulet bol et les bouchées de poulet cornichon. Ce serait cornichon de ne pas y goûter. Coup sûr.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez-vous.
Dans le mid.
Get up, get up. En vacances.
Radio. X.
Tabarouette, il est ça, Pierre, les trams, me sent quasiment comme dans Coyote Ugly. Autre film à se retaper encore et encore, ou pas, là, Coyote Ugly, c'est un souvenir très vague dans mon esprit.
Il y a des bars un petit peu partout, dont à Las Vegas, dans le New York, qui c'est Coyote Ugly, puis pour vrai, c'est quand même cool.
Ouais, OK.
Ouais, beaucoup de réactions sur le texto, honnêtement, sur
la suis
nostalgie.
Fessé.
Ouais, hein?
Ah ouais, je suis fessé, la nostalgie, puis on a tous, c'est ce que je me rends compte, on a tous des films qu'on est capable d'écouter à l'infini.
Culte.
Ouais, qui sont culte. On va probablement revenir là-dessus d'ici midi parce que vous en avez trop des bonnes suggestions. Hey, mais on arrive à ce moment-là où, en entrée d'émission, je vous parlais qu'on a, on a eu accès à une série qui va sortir dans les prochains temps. Et c'est une série qui, du peu que j'ai pu écouter, m'a chamboulé. Je te le dis, là, ça m'a complètement chamboulé. C'est une série sur le fait d'être proche aidant,
oui.
Mais c'est avant toute chose, puis je veux pas définir la série à la place de celle qui l'a fait, mais c'est surtout une série sur l'extrême fragilité de la vie, à mon sens, là.
À quel point c'est du jour au lendemain, ta réalité puis le monde que tu connais s'arrête, là.
C'est fou, là, à des moments...
Le vent change de bord vite.
Oui, puis le vent, il attend pas que tu aies un moment de break dans ta vie.
Non. T'sais,
l'animatrice de l'émission s'appelle Anne-Marie Wittenshaw. La série s'appelle « Quand les rôles s'inversent ». Et Anne-Marie explique au début de sa narration... qu'elle est dans un des roches de sa vie, là. Mariage, jeune enfant, carrière florissante, puis bang! Sa vie bascule, ou plutôt celle de son père bascule en dedans d'un coup de téléphone, en fait, et sa vie aussi par le fait même. Pour en parler, justement, elle est au bout du fil, on va aller la rejoindre, Anne-Marie Wittenshaw, bonjour.
Allô?
Ça va bien?
Très bien, merci de me recevoir.
Écoute, c'est très, très apprécié que tu prennes du temps pour nous autres. Je veux savoir comment t'es venue l'idée d'une série sur ça?
Bien, la série s'appelle « Quand les rôles s'inversent », premièrement. C'est parce que les rôles dans ma famille se sont inversés du jour au lendemain. Alors que j'étais une maman avec deux enfants qui, à l'époque, avaient 3 ans et 8 ans et qui, malgré un début de quarantaine, dépendaient encore beaucoup de mes parents pour, justement, de l'aide avec la famille. Mon père était mon gérant aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant près de 20 ans. C'était celui qui était mon agent dans ma carrière. Donc, c'était mon partenaire d'affaires. Et du jour au lendemain, mon père a eu un épisode qui a duré une journée et demie et on l'a diagnostiqué avec un cancer du cerveau qui l'a complètement incapacité, c'est-à-dire qu'il a été opéré presque d'urgence, très rapidement. Ça a affecté ses facultés cognitives. Évidemment, c'est une maladie qui est incurable, donc il est décédé 9 mois plus tard. Et pendant les 9 mois qui ont suivi, les rôles se sont vraiment inversé. Je suis devenue la gestionnaire et même la gérante des soins médicaux de mon père, de ma famille, mais aussi de l'ensemble des responsabilités administratives, émotives, de tout qu'est-ce qui reposait avant sur mes deux parents, ben là, c'était moi.
Et en plus d'être maman, en plus d'avoir une carrière, en plus de tout ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur chez ton père? T'sais, pour la crise qu'il a eue, est-ce que c'est quelque chose en particulier qui a généré ça ou c'est juste shit à peine, la vie, des fois, ça bascule sans raison?
C'est exactement ça. On était assis dans le bureau du médecin, je me souviens, il nous a dit... Ben, c'est vraiment juste une bad luck génétique. Il y a 8 personnes sur 100 000 qui vont être diagnostiquées avec un glioblastome. Puis, tu sais, dans la série, on rencontre toutes sortes de proches aidants. Des fois, c'est les gens qui s'occupent d'un membre de leur famille qui a de l'Alzheimer. Des fois, c'est un papa qui a 2 enfants qui ont des besoins particuliers et une conjointe qui soudainement est atteinte d'un cancer du sein. Des fois, c'est une personne qui choisit d'héberger sa mère à la maison. Des fois, c'est François Morancy qui, après avoir montré à tout le Québec ses parents, fictifs, mais vraiment inspirés de la réalité dans le discours avec mes parents, oui, se retrouve avec deux parents malades au début de leur vie d'octogénaire. Bref, c'est ce qui a inspiré cette série-là, l'élément déclencheur pour moi, c'est de savoir que je n'étais pas seule à vivre ça. Une personne sur trois, et même maintenant, en 2026, une personne sur deux va vivre une situation de proche aidance.
C'est hallucinant, hein?
Hey, j'ai des frissons qui partent pour le corps, c'est pas compliqué. Mais...
Ben c'est ça. Fait que, on va pas tous le vivre au même niveau. Il y en a, par exemple, dans le premier épisode, vous allez voir François Morancy qui parle de ça. Lui, son quatre ou cinq enfants dans sa famille, ils sont tous divisés les tâches, ça a bien été, mais même à ça, il dit que tu vois pas la curve arriver. Là.
C'est ce que j'ai trouvé excellent dans son témoignage. Son premier témoignage, la première fois où on le voit, il dit « Nous autres, on était une famille là, qui parlait pas de ça, les éléments de santé, puis le vieillissement de nos parents. » Puis je me suis tellement reconnu là-dedans. Là. Moi puis mes parents, on parle pas de ça, les vieux jours. Jamais, jamais, jamais.
Ben, puis le but avec ma série, je pense, là, c'est cinq épisodes, puis moi, c'est l'affaire que j'ai faite de toute ma vie, que ce soit Musique Plus, Flash, Guin, Resto Voir, c'est juste de la TV qui existe depuis 20 ans. Je me suis jamais fait parler de quelque chose comme cette série-là. L'année passée, on l'a déposé sur l'extra de Point.tv. Là, elle arrive à Radio-Canada, puis je me faisais dire constamment, non, mais c'est fou l'important, là. Vous devez le mettre à la télé publique, là,
ben oui,
que ça soit pas sur une plateforme payante, parce que je veux avoir la discussion avec mes parents, justement, pour reprendre un terme de François Morancy, sans m'en rendre compte. Parce qu'on parle pas de ces affaires-là avec nos parents. Mon père, oui, il avait 77 ans quand il est décédé, puis... Il agissait comme s'il était immortel. Il faisait de la radiothérapie puis de la chimiothérapie pour son cancer. Il avait encore mon char le jour de la fête des pères. OK? Parents,
wow,
souvent, se pensent immortels, ne discutent pas de qu'est-ce qui se passe si je tombe malade, quel genre de soins je veux avoir, qui je veux qui s'occupe de moi. Puis au-delà de ça, tu sais, il nous laisse aussi, souvent en n'en discutant pas, avec des grosses responsabilités financières. Puis c'est pas pour mettre le blâme sur nos parents, c'est juste que moi, je veux ouvrir la discussion à dire, nos parents, là, ils vont vivre de plus en plus vieux, nous aussi, mais on a aussi nos enfants de plus en plus vieux. Fait que moi, c'est là que je me suis retrouvée, ils appellent ça la génération sandwich. C'est-à-dire que j'avais des jeunes enfants quand mes parents étaient vieux. Alors que moi, quand j'avais 30, 32, 33, ma mère s'occupait de ma grand-mère. Pas quand j'avais 8 ans, pas quand j'avais 3 ans.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça la différence. Tu sais, ma mère était à la retraite quand elle s'est occupée de sa mère. Moi, j'étais au pic de ma carrière. Fait qu'il y a des discussions à avoir sur comment on va le vivre en tant que société, comment on va le vivre en tant que famille, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Puis, comment on va s'arranger dans tout ça?
Il y a une question d'orgueil beaucoup là-dedans pour la personne qui est impliquée dans la maladie. Après ça, l'autre génération, ben, vit un petit peu dans le déni parce que oui, on voudrait les garder le plus longtemps qu'on veut. Mais il y a les yeux du gouvernement aussi, la proche aidance au Québec. On se qualifie comment pour avoir accès à de l'aide? Est-ce qu'il faut avoir des stades de maladie avancés? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devient officiellement, aux yeux du gouvernement, proche aidant au Québec?
Oui, puis en sous-question, je vais rajouter à la question de Camille, là, combien de personnes font « Hey, j'ai pas le temps de me lancer dans chercher des fonds, puis tout ça. »
Moi, c'était ça. Ouais. Moi, c'était ça. Là, j'avais pas le temps. Là. T'as pas le temps. T'es en train de gérer. Moi, j'étais comme vous, je faisais de la radio en direct tous les jours, OK?
Ben oui.
Fait que moi, je présentais des chansons, puis pendant que les chansons jouaient, je répondais au téléphone, puis j'appelais l'infirmière pivot de mon père. On est sollicité de toutes parts quand c'est des choses comme ça qui arrivent, mais il y en a pour qui ça se fait un petit peu plus en douceur. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui vit une situation qui est urgente à tout moment comme celle que j'ai vécue. Mais pour répondre à votre question de qu'est-ce que c'est un proche aidant, c'est une définition qui est très large et dont on fait état justement dans le premier épisode de cette série-là, puis sans doute que il y a plein de monde qui écoute en ce moment qui vont dire « Hein, je savais pas, mais c'est moi, ça.
Ben » oui.
Du moment que tu viens en aide plus de quelques heures à quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin au niveau de sa santé ou au niveau de sa santé mentale, tu es un proche aidant. C'est vraiment quiconque. donne quelques heures, que ce soit pour des... Tu sais, on a l'image beaucoup, là, tu sais, dans le temps, on disait aidant naturel, puis je pense que à cause de, mettons, des témoignages de quelqu'un comme Chloé Sainte-Marie, on a l'idée de comme quelqu'un qui lave son mari ou son parent, tu sais, quelqu'un qui ouais. le soulève ouais, de sa chaise roulante. C'est pas que ça, là. Moi, mon père, comme je vous dis, il y avait encore beaucoup de capacités, puis... J'habitais pas avec lui, là. C'est ma mère qui était sa principale proche aidante. Mais du moment que c'est toi qui accompagnes aux rendez-vous médicaux, que tu livres des repas, que tu fais des lifts, c'est ça un proche aidant. Par contre, c'est drôle, hein, parce que la définition est vraiment vaste, mais c'est pas mal difficile d'avoir du soutien financier.
C'est paradoxal,
coudonc. Sur tes impôts. C'est assez paradoxal. Moi, je vous dirais que j'ai pas eu droit à aucune aide financière, aucun soutien, même pas un crédit d'impôt, parce que mon père n'a pas été malade assez longtemps.
Okay.
Alors, okay. Il faut être proche aidant un minimum de 1 an. Puis après ça, comme vous dites, c'est beaucoup l'énergie que ça prend, la paperasse. D'ailleurs, on touche à ce dossier-là dans la série avec un témoignage d'une personne qui s'appelle Marie-Josée. Sa mère habite chez elle. Okay? Elle, c'était une attachée politique. Mm-hmm. C'était quelqu'un qui, en plus, a été préposé aux bénéficiaires. Fait que, tu sais, a comme tout le beau CV là, pour savoir comment faire,
ouais.
pour s'en sortir. Puis même à ça, c'est quelqu'un qui s'est frappé à des portes closes. Sa mère a habité chez elle pendant plusieurs années. Elle l'amenait à l'hôpital, il retournait chez elle. Il y a quelque chose au Québec qui s'appelle le chèque emploi-service, qui est comme un montant d'argent qui est alloué par le gouvernement pour justement ceux qui pourraient être proches aidants, mais tu peux pas comme habiter avec la personne. Fait que ça vient habiter chez vous, c'est pas toi qui peux récolter le chèque. Tu sais, il y a toutes sortes d'incongruités qui font en sorte que c'est très frustrant de vivre cette situation-là, en plus d'être épuisant émotivement parce qu'on est en train de vivre des deuils.
Mais oui.
Fait que j'ai tenté de faire état de la frustration, j'ai tenté de faire état de la situation d'impuissance aussi dans laquelle on se trouve, mais je suis pas allée cogner aux portes du gouvernement pour avoir des réponses à ce sujet-là, parce que c'est en mouvance en ce moment au Québec. Il y a une chaire de recherche qui est en train d'étudier. Il y a un projet de loi avec comme 61 mesures qui sont en train d'être mises en place, qui ont été mises en place. Fait que j'étais entre deux eaux à ce niveau-là, puis moi, je voulais plutôt que les gens qui regardent cette série-là, sur ces 5 épisodes qui vont être diffusés chaque mercredi, qui aillent chercher des clés, qui se reconnaissent, qui se disent « Ah, shit, OK, ça c'est en train de m'arriver, ça? OK, parfait, je ne le savais pas. » Ou sinon, de faire un peu de prévoyance puis de dire « OK, je suis peut-être dans la trentaine, dans la quarantaine, je pense que c'est pas mon tour encore, que ça va pas arriver à notre famille. » Puis là, finalement, tu l'écoutes, tu fais comme « Ah, qui a une des familles qui me ressemblent? » Peut-être que je devrais juste avoir la discussion, d'ouvrir la conversation sur qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, comment on veut que ça se passe dans notre famille. Puis c'est beaucoup plus fun, je vous promets, beaucoup plus facile d'avoir ces discussions-là quand ça va bien que quand ça va mal.
Quand on est dans la crise. Le timing de la série est excellent. Ça va être diffusé à partir du mercredi 12 août. On ne se cachera pas qu'il y a aussi des airs de campagne électorale provinciale. T'sais, ça va être dans le discours ambiant. Un bon timing pour peut-être ouvrir la discussion, que ce soit dans des microcosmes de famille, mais aussi un sujet de société. On le sait, la vie, c'est une pyramide. Au troisième âge ou en vieillissant, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais
puis on est une société vieillissante aussi, en plus.
Oui, beaucoup. Puis, tu sais, Camille, je ne veux pas te corriger. Ça commence le mercredi d'avant, le 5 août.
Le 5 août, OK.
Oui, à Istélé.
On va le dire. Donc, à Radio-Canada qui a écrit le 12.
Oui, c'est ça. Puis Istélé, c'est Radio-Canada, là. C'est ça. Oui. Le 5 août à Radio-Canada, puis le 12, puis la semaine d'après.
De faire excuse-moi, vas-y.
Non, vas-y.
Ben, j'allais te demander, de faire cette série-là, là, est-ce que ça t'a fait prendre un bain des mauvais souvenirs que tu avais? Ça a-tu été difficile ou ça a été un soulagement?
Ça a plus été comme mettre un sens sur ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand t'es dedans, là, pis t'es comme, hey, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Nous autres, en plus, les circonstances où on a appris que mon père était malade, c'était comme, on est passé du plus joyeux au plus triste. C'était la fin de la pandémie et on avait décidé de se booker un voyage en famille à Walt Disney World.
Okay.
C'était les grands-parents, les petits-enfants puis nous autres. Et mes parents sont partis en Floride quelques temps avant moi pour aller voir des amis et tout. Puis, c'est vraiment au bout de quelques jours, là, nous autres, on devait aller les rejoindre. Puis là, les enfants sont excités. Ça fait 2 ans qu'on est confinés, qu'on voyage pas, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Puis là, on est comme, hier, on s'en va à Disney avec les grands-parents. Et ma mère m'a appelée au bout de 3 jours du voyage. Puis elle m'a dit, va falloir qu'on revienne à la maison. Ton père n'est pas le même. Ce qu'on savait pas, c'est que mon père faisait des petites crises d'épilepsie à cause de la tumeur qu'il avait au cerveau,
okay,
qui lui faisait perdre la mémoire à court terme vite, vite, qui lui faisait faire des crises d'épilepsie, qui lui faisait avoir des absences. Bref, il est revenu d'urgence. Et ça fait que, si... C'est comme tu passes vraiment du hey, on s'en va à Disney, hein? Hey, non, on n'y va pas. On s'en va chercher ton grand-père d'urgence à l'aéroport, on l'amène à l'hôpital. Puis à partir de ce moment-là, je dirais, tu sais, ça a été comme le début de l'aventure.
Mmh.
Donc, quand ça t'arrive, tout ça, tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu es en train de vivre, pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu te sens extrêmement seul aussi. Malgré le fait que tout le monde traverse ça, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui en parlait.
Non. Merci de nous le démocratiser, de le disséquer, les étapes, mm-hmm, le deuxième épisode, la culpabilité, là, ça va être un qui va être confrontant. Là. De l'expliquer au monde aussi, qui vont
exact,
peut-être avoir à le vivre.
Mm-hmm.
C'est ça, hey, c'est désagréable. T'sais, dans le deuxième épisode, il y a Alex Perron, qui est un grand ami à moi, qui témoigne parce que lui, il est enfant unique, sa mère a l'Alzheimer, elle habite à Québec, il fait des allers-retours à Montréal-Québec. Des fois, ça se passe pas super bien. Parce qu'une personne qui fait de la démence, qui fait de l'Alzheimer, qui a n'importe quel trouble cognitif, tu ne sais pas comment qu'elle va filer.
Ouais.
Alors, tout ça pour dire que je trouvais ça isolant. Puis, grâce à des personnes comme Alex, j'ai réussi à me sentir moins seule parce que je pouvais en parler avec eux au travail. Et au bout de tout ça, je suis arrivée et j'ai dit, OK, bon, là, je suis comme devenue une encyclopédie de la prochaine danse. J'ai comme vécu tellement d'affaires que là, moi, je suis Madame Conseil, j'en donne à tout le monde. Parlons à des gens qui ont vécu ça et faisons une série télé avec ça. Et vraiment, j'allais rencontrer mes deux boss à Radio-Canada. Ils vivaient ça, elles aussi. Puis on se mettait juste à jour sur nos vies. Puis après ça, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je travaillais à Trio Orange, qui est le producteur de la série. Elle aussi vit ça. Ses parents sont séparés. Son père fait de l'Alzheimer. Il faut qu'elle s'occupe de son père tout seul. Là, je fais comme, OK, là, on vit tout ça, puis personne ne s'en parle. Alors, ouais, faisons-le. Fait que pour prendre un très long intro pour répondre à ta question, c'est que ça a au moins mis un sens à ça. Puis de cette série-là a découlé aussi une série de conférences que j'ai écrit en les faisant parce que je me suis juste fait appeler par différents centres, par des FADOC, okay, par des associations qui me disaient « Viens parler à nos membres de la prochaine danse, de ta situation, de ce que tu as vécu. » Fait que, tu sais, il y a une conférence qui se promène à travers le Québec que je peux donner. Je l'ai donnée des fois avec ma mère. C'est vraiment le fun. Puis ça fait que on en jase, on en parle, on efface le trauma, puis on fait œuvre utile avec ça.
Puis tu as une expression au début du premier épisode où tu dis on vit tellement tout ça que ça n'a pas de sens qu'on le vive chacun de notre bord. Je trouve ça tellement à point. Là, c'est tellement bien dit. J'ai deux dernières questions. Je sais qu'on est sur du temps un petit peu plus limité. Mais...
Non, mais ça va. Là.
OK. Cette année-là que tu as vécu avec ton père, à quel point elle a changé? T'sais, j'imagine que si c'était ton gérant, tu avais quand même une relation pas pire avec, mais à quel point ça a modifié votre relation, tu sais, maintenant avec le pas de recul que tu as?
Bien, ça n'a rien modifié. C'était juste naturel pour moi de le faire. Moi, je suis enfant unique. J'étais très près de mon père. On était, tu parlais de pyramide, Camille, tantôt. Oui. Nous autres, on était comme un petit triangle, là, je veux dire, c'était deux parents puis moi. Fait qu'on était super, super proches. Puis, j'ai voulu être là. Je pouvais pas laisser ma mère seule dans cette situation-là. J'ai pris une longue pause du travail. Là, j'ai comme un 5-6 mois où j'ai quitté tout. Puis jamais je vais regretter d'avoir fait ça. Tu sais, je veux dire, c'est la seule affaire que je pouvais faire après tant d'années où mon père s'est occupé de moi.
Mm-hmm.
Il n'y avait rien que j'aurais pas fait là, tu sais, pour l'aider. Puis si ça avait duré 2 ans, puis 3 ans, puis 5 ans, j'aurais fait la même chose quand même. Puis je suis super reconnaissante d'avoir pu prendre ce congé-là, même si ça vient avec des écueils financiers, ça vient avec des répercussions financières, les jours où je donnais un break à ma mère, puis j'allais marcher tout le parc Maisonneuve à Montréal avec mon père, parce que c'est la seule affaire qu'il était encore capable de faire, c'est juste marcher en silence.
Oui.
J'étais vraiment, vraiment contente de pouvoir le faire. Puis ces épisodes-là, après ça, ils nous changent, puis ils nous donnent un espèce de coup de pied au derrière pour qu'on profite vraiment de la vie.
Ce que je trouve tough.
On s'énerve pas avec les choses.
Ce que je trouve tough de ta de la situation que t'exposes, c'est que t'as-tu vraiment le choix d'accepter ou de refuser?
Non.
Parce que sinon, dans le fond, t'abandonnes tes parents ou
ceux-là qui t'ont.
Ben, c'est c'est-à-dire que moi, je préférais vraiment que mon père soit confortable, qu'il soit. Tu sais, quand t'as un diagnostic de cancer du cerveau, souvent tu subis une opération au cerveau pour enlever la tumeur, même si ça se guérit pas, tu sais. Fait que mon père, il a eu ça. Puis après, tu sais, t'as le choix. Tu peux envoyer, ben, t'as le choix. En tout cas, tu sais, il y aurait eu peut-être une possibilité que mon père soit envoyé en maison de réadaptation. Mais, tu sais, est-ce que je voulais vraiment que tout de suite, après une opération au cerveau, là, on focus sur, il va accorder ses participes passés comme il faut, puis on va faire de la thérapie du langage pour qu'il parle vraiment mieux, puis tout ça. Non, tu sais, je voulais qu'il soit bien, je voulais qu'il soit confortable, je voulais qu'il soit à la maison. Fait que, tu sais, je sais pas, je pense qu'on a toujours le choix, mais c'est sûr que statistiquement parlant, les proches aidants sauvent pas des millions, mais des milliards de dollars au système par les soins qu'ils offrent.
Mmh.
Et puis, les heures, je veux dire, ça se compte en vingtaine d'heures par semaine pour la majorité des proches aidants. Fait que c'est sûr que a-t-on le choix? Ben moi, en tout cas, c'était pas un choix. Puis on le voit beaucoup dans la série, là, tu sais, il y a Jacinthe Leroux, la designer que vous voyez peut-être à Canal Vie, qui, elle, a hébergé sa mère chez elle, mais ensuite a dû faire un choix déchirant, c'est-à-dire, je suis plus capable de m'occuper d'elle, je ne peux plus lui donner les soins, lui offrir les soins dont elle a besoin. Là, après ça, c'est effectivement déchirant. Moi, j'ai pas eu à me rendre là. Mmh. Mais c'est ça. C'est comme un piège, dans le fond.
Hey Anne-Marie, en écoutant les épisodes, moi, j'ai réalisé que je connaissais quelqu'un qui était proche aidant. Je savais. Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui je pense souvent, que sa conjointe vit de quoi de vraiment, vraiment pas facile.
Ouais.
Et j'ai comme, en écoutant ton épisode, réalisé que la personne que j'aime beaucoup est un proche aidant. Je te le demande comme personne qui n'est pas dans la situation. Qu'est-ce que les gens qui sont autour de proches aidants peuvent faire pour agrandir la chaîne d'aide, justement?
Ah, que c'est beau que tu poses cette question-là. Ben moi, je te dirais c'est vraiment d'offrir quelque chose de concret. Puis d'écouter la personne puis demander ce dont il a besoin. C'est-à-dire, moi, là, ce que j'aurais voulu, là, c'est des pâtés chinois.
Ouais.
Des muffins.
Ouais,
je voulais que quelqu'un là, nourrisse mes enfants. Genre, j'avais plus cette énergie-là. Puis ça, là, j'aurais pris ça 100 fois plus que des textos. Je pense à toi. Je t'envoie de la lumière, des ondes positives. Bro, j'ai rien à faire de tes ondes positives.
Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup d'ondes positives que tu envoies et qui ne changent rien.
Ouais,
c'est ça. Moi, je dirais d'être dans le concret, de dire, hey, ça t'aiderait-tu? Moi, là, il y a une amie qui m'avait dit, hey, ça t'aiderait-tu que je fasse les devoirs avec ta plus grande 2 fois par semaine? Oui, vraiment ça, là. Je n'ai plus l'énergie pour les problèmes de mathématiques. J'ai passé la journée avec quelqu'un qui ne se rappelle pas du mot café. Fait que oui, j'aimerais vraiment ça. Wow. Après ça, tu sais, mais c'est très difficile, je pense, pour les proches aidants de mettre des mots sur ce dont ils ont besoin. Fait que donnez-leur des mots, donnez-leur des options. Tu voudrais-tu que je t'amène manger puis qu'on n'en parle pas pantoute? OK, oui. Mm-hmm. Il y en a qui, c'est plus le contraire. Tu voudrais-tu que je t'invite à prendre un café puis tu me fasses un vomi de mots? Oui, OK. Faut comme, c'est une position difficile pour ceux qui accompagnent, mais en même temps, c'est vraiment cool que tu poses la question parce que c'est juste des petits gestes qui peuvent vraiment s'accumuler puis comme pander à la fin du mois qui font que tu souffles un peu plus.
Ouais, Anne-Marie, ça a été très intéressant de te jaser, très intéressant d'écouter ça aussi. C'est au-delà d'être particulièrement prenant, c'est bien fait. On sent dans ta narration que ça te touche pour de vrai, même que t'as, j'ai cru déceler des petits trémolos ici et là, même si c'est une narration, je présume, faite en studio, fait que ça montre à quel point c'est bien fait. J'encourage les gens à écouter ça à partir du 5 août à Radio-Canada. Félicitations encore pour le beau projet.
Merci pour ton temps.
Je le rappelle, là, juste si les gens le cherchent sur leur enregistreur ou whatever, là, ça s'appelle « Quand les rôles s'inversent ». Il est déjà disponible sur l'Extra, puis c'est ça, il arrive à Radio-Canada mercredi prochain.
Yes, merci beaucoup Anne-Marie.
Merci.
Bye-bye, bonne journée.
Bye-bye. Bye-bye.
Anne-Marie Wittenshaw, comme elle l'a mentionné, la série s'appelle « Quand les rôles s'inversent ».
Ah, puis sixième minute, j'avais les yeux dans l'eau.
Ah, moi, pour vrai, là, j'ai eu de la misère pas mal. Le bout où François Morancy, je mélange tout le temps avec ma scotte. François Morancy décrit le type de famille qui était... Comme nous, comme mes voisins en face, comme la plupart des gens, en fait, là. Puis finalement, bang, toi, parce que, tu sais, je pense que ce que je vais dire là est d'une grande banalité, mais on pense tout le temps que ça arrive aux autres, là.
Ouais.
Ah, c'est les autres, là, qui ont des cancers du cerveau. Ben non, eux autres aussi, à un certain moment, pensaient que c'était peut-être les autres.
Ah non, puis c'est vertigineux, là, parce que ce qui était 1/3, 1/4, là, c'est bientôt 1/2, elle l'a dit, Anne-Marie, là, Wittenshaw, la statistique, là, ça s'en vient... Une personne sur deux, fait qu'autour de la pièce, là, dans la station, il y a une personne sur deux.
Oui, oh, exact.
C'est fou, là.
Et ça, là, tu sais, moi, j'en fais une maladie des fois dans le Spacecast. On me le reproche même, là, de faire une obsession sur la démographie. C'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. J'aime lire là-dessus.
On a la courbe qu'on a.
Bien, ça, là, ça, c'est un des effets poison d'une courbe démographique comme la nôtre. Un effet poison. Et on peut parler de l'immigration autant que vous voulez. Là.
L'écart entre enfant unique versus une famille au moins de deux enfants aussi. Il mais... y en a un qui a la charge mentale à lui tout seul, comme ça a été son cas à elle. Là.
Ça, mais ça fait aussi qu'on se retrouve en infériorité numérique aussi. À soigner nos parents.
C'est
pour le peu qu'on est. Fait que c'est vraiment... C'est extrêmement problématique.
C'est confrontant.
La voie sur laquelle on est. Là. À écouter cette série-là. Si vous êtes à fleur de peau, peut-être moins. Là. Mais c'est vraiment très, très bon. Allez, on fait une courte pause. Le couture dans le mythe. J'allais encore dire le Space Cash.
C'est le Space Cash.
As-tu un conseil économique d'ici midi à donner au monde?
J'ai un chiffre magique pour toi, mais pour les bonnes et les mauvaises raisons, 200 000 piastres. Retiens ça.
Un chiffre magique, d'habitude, c'est 9 99.
Couture. On fait une petite pause, puis on revient dans pas longtemps. Dans le mid, Radio X.